Ce psaume 23 est magnifique. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, etc. C'est plein de belles images poétiques sur ce que nous donne la présence de Dieu. Et parmi ces images, il y en a une qui m'a un petit peu intrigué. C'est celle du bâton. En effet, le psaume dit « Ta houlette et son bâton me rassurent ». Alors qu'est-ce donc que ce bâton de Dieu qui nous rassure et qu'est-ce que ça nous apprend sur notre foi à Dieu, sur notre relation à Dieu ? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, je comprends un peu encore ce que ça peut signifier. Dans l'hébreu, puisque j'aime la langue originale, le mot « sha'an », ça veut dire « s'appuyer ». Donc le bâton, ce que le psalmiste traduit par « bâton », c'est en fait étymologiquement un appui, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Ah, voilà déjà une leçon intéressante. C'est que Dieu est pour nous, dans notre vie, un appui. Alors c'est un appui de deux manières, dirais-je. D'abord, ça peut être un appui dans la difficulté. C'est dans ces cas-là que les gens utilisent des cannes ou des bâtons. C'est quand on a peur de tomber, soit parce qu'on est un petit peu faible ou alors parce qu'on est sur des très hautes montagnes et qu'à ce moment-là, on a besoin d'un bâton pour s'aider à aller dans des endroits difficiles. Et donc le bâton, c'est ce qui nous aide. Quand nous faiblissons, si nous avons peur, nous pouvons nous appuyer sur une base et qui est Dieu lui-même. Donc Dieu et la foi, c'est sûrement dans notre vie un appui, un réconfort, je dirais même une béquille parfois quand nous en avons besoin. Et c'est, la foi est une très grande aide certainement dans les moments de difficulté. Mais ce n'est pas tout parce que un appui, c'est aussi vrai dans le sens que pour nous, Dieu, c'est un appui, c'est-à-dire un point fixe dans notre existence. En effet, notre vie, elle est compliquée. Finalement, dans notre vie, tout va et tout vient, et on peut tout perdre du jour au lendemain. On peut perdre la santé, on peut perdre sa situation matérielle, on peut perdre ce que nous possédons, on peut perdre ce que nous aimons. Tout est passager, tout est provisoire, tout est menacé, je dirais, dans ce monde. Rien n'est définitif, sauf une chose, la présence de Dieu. Et c'est en ce sens que Dieu est peut-être pour nous justement cet appui, cette espèce de confiance qu'on peut avoir dans la seule chose que personne ne puisse nous retirer. On peut tout nous enlever, on peut tout perdre, sauf une chose, la présence de Dieu. Et Paul dira ça dans son épître aux Romains. Il dira « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les puissances, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Et donc ce Dieu, c'est ce qui dans notre vie ne peut pas être remis en cause, c'est le rocher sur lequel nous pouvons construire notre vie, c'est l'inaltérable, c'est la terre ferme sur laquelle nous lançons une ancre pour s'accrocher à ce qui ne bouge pas. Et en accrochant ma vie à cette présence d'amour indestructible, je fonde ma vie sur une base inébranlable. Et puis ce point fixe de Dieu, cet appui qui est fixe, on pourrait encore trouver d'autres images, comme par exemple l'aviateur qui vole dans l'air, eh bien, il a besoin d'un point fixe pour se repérer. S'il n'a pas de point fixe, eh bien, il ne sait plus. S'il monte, s'il descend, s'il est dans un sens ou dans l'autre. Il paraît que c'est le grand danger des avions quand ils n'ont pas d'instrument et qu'ils rentrent dans les nuages et qu'ils finissent par ne plus avoir aucun repère. Et il risque finalement, sans s'en rendre compte, d'être à l'envers dans l'air. Ce qui est peut-être bien arrivé d'ailleurs à ce fameux Airbus dont on parle tant. Et donc, ce point fixe, c'est Dieu aussi. Cette espèce de repère, voyez-vous, ce repère qui nous permet de savoir où nous en sommes. L'horizon que l'on regarde et qui nous permet d'avoir un point de comparaison. Et l'Évangile, ce n'est pas fait pour tout appliquer. Bon, Jésus dit plein de choses qui sont au-delà du raisonnable. Donne tout ce que tu as pour les pauvres, si on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite, ou je ne sais quoi. Mais en même temps, cet évangile, c'est peut-être justement un point de repère à partir duquel je peux me situer. Il y a là une sorte d'idéal ferme, immuable, absolu, et en regardant ça, eh bien, je peux avoir un repère pour vivre moi-même. On pourrait dire aussi que ce point fixe, il est indispensable dans d'autres choses. Tenez par exemple, si vous écrivez à la main, eh bien, pour écrire, il faut que la main repose sur quelque chose de stable, sur la table. Essayez d'écrire en tenant votre stylo comme ça, sans reposer sur rien. Votre écriture ira dans tous les sens. Donc il faut un point fixe pour pouvoir caler sa main et pour pouvoir ensuite, avec souplesse, écrire des choses. Eh bien, notre vie, elle s'écrit comme ça, avec souplesse, en posant une partie de notre vie sur ce point fixe qui est Dieu et qu'est l'Évangile. Ou encore, tenez, encore un autre point fixe auquel j'ai pensé pour vous. Bon, ça c'est dû au, je dirais, aux études que j'ai faites. Newton, le grand physicien, a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. » Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Vous demanderez à vos parents de vous expliquer, c'est vrai. Si on avait un point d'appui, on pourrait faire un gros levier et soulever la terre. Eh bien Dieu, voilà, c'est encore ce point d'appui, et à partir de ce point d'appui, je peux soulever le monde, je peux soulever des montagnes et faire des choses incroyables dans mon existence. Ah, voilà déjà pas mal de leçons donc, que nous donne ce bâton. Ton bâton me guide et me rassure. Et le psaume parle aussi de la houlette. Ta houlette est ton bâton. Alors la houlette, ça c'est plus complexe, et beaucoup de jeunes gens ne savent absolument pas ce que c'est. Ils ne savent pas que la houlette, c'est le bâton du berger. En fait, c'est même un bâton du berger qui est recourbé en bas, avec une petite partie métallique, paraît-il, pour pouvoir ramasser des pierres et les envoyer sur les brebis qui s'égarent. Enfin, c'est comme ça. En tout cas, la houlette, c'est le bâton du berger. Mais là, le traducteur s'est un peu avancé parce qu'en fait, le mot hébreu qu'il y a dans le psaume ne désigne pas seulement le bâton du berger, ça désigne toutes sortes de bâtons, des tas de sortes de bâtons différentes que je vais essayer de passer en revue avec vous. Donc d'abord, oui, c'est vrai, ça peut être le bâton du berger. Ça nous ramène au début du psaume, cette image, l'Éternel est mon berger. Et ce berger, il est plein d'attention, plein de tendresse, plein de petits soins pour nous. Et ça, c'est extraordinaire, cette image d'un Dieu qui nous aime tendrement. Alors vous me direz, et ça m'a toujours un peu gêné d'ailleurs, c'est que si Dieu est le berger, nous sommes des moutons, et ça n'est pas très valorisant d'être des moutons. Parce que je ne crois pas que le chrétien soit un mouton. Alors pour comprendre ça, il faut se remettre dans la situation de l'époque. C'est qu'aujourd'hui, les troupeaux sont énormes, il y a 2000 moutons. Mais à l'époque, une famille, elle avait une brebis, un mouton, peut-être deux brebis. Et ces brebis, c'était toute leur richesse, toute leur vie. C'était ce qui leur donnait à la fois à manger. En même temps, c'était, je dirais, leur compagnie. C'était à la fois un animal pour leur permettre de survivre. C'était aussi leur richesse et c'était aussi une présence. Et ces brebis, ces moutons, eh bien, elles habitaient dans la maison et dormaient au pied du lit, si vous voulez. Et donc la brebis ou le mouton dans la Bible, ce n'est pas un numéro parmi d'autres. C'est bien cette brebis que le maître de maison aime et qu'il connaît par son nom et avec qui il partage sa vie et qui est pour lui la chose la plus précieuse qu'il ait. Parce que c'est toute sa richesse et c'est ce qui lui permet de vivre aussi. Et donc si l'Éternel est notre berger, eh bien c'est bien celui justement qui nous aime et qui nous connaît par notre nom. D'ailleurs en hébreu, encore autre leçon d'hébreu, le mot berger, roé, vient du verbe raa qui veut dire aimer. C'est le mot qui a donné le prochain, tu aimeras ton prochain. Donc le berger c'est celui qui aime. Et dans l'évangile de Jean, le Christ dit que ce berger, eh bien il marche devant et qu'il fait sortir les brebis. Et donc il les mène sur un chemin. Et le Christ est notre berger avec son grand bâton. Et ce bâton, cette espèce de repère dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est en même temps ce vers quoi nous nous dirigeons pour ne pas nous perdre dans la foule et pour avancer quelque part. Vous avez peut-être vu des fois au château de Versailles, au musée du Louvre, ces guides qui essayent de garder le contact avec leur groupe et qui agitent un parapluie ridicule, rouge, vert ou je ne sais quoi, et tout le monde garde les yeux sur ce repère et ça leur permet d'avancer dans un sens qui les mène vers les choses les plus précieuses. Eh bien, le bâton du Christ est ça, cet évangile, qui nous permet d'avancer vers la joie, vers la paix et vers l'amour. Il passe devant nous, nous pouvons le suivre, nous avançons, et il nous mène sur un chemin extraordinaire. Et puis le berger ne va pas se servir de son bâton juste pour ça. Un bâton de berger, ça va servir aussi, de temps en temps, certainement pour donner des petits coups sur les brebis. Parce qu'il y en a une qui s'égare, alors tac, 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 il va donner un petit coup pour dire, allez, non, non, à droite. Attends, non, 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 tu vas trop à gauche. Va de l'autre côté, pour les remettre dans le bon sens. Et ce bâton, ça me plaît parce que je crois qu'il y a aussi dans l'Écriture des choses comme ça, des choses qui nous recadrent. Il y a des choses qui nous remettent en cause, qui forcent à repenser notre façon de vivre. Et quand on lit la Bible, il y a des contrariétés. On lit ça et on se dit, mais je ne suis pas d'accord, ou je ne vis pas comme ça, je ne sais pas. Et ça nous force à nous remettre en cause et ça n'est pas toujours très confortable. Et donc il y a bien dans ce contact avec Dieu des petits coups de bâton. Bon, jamais méchants, hein, je vous rassure, mais des petits coups de bâton qui nous forcent à nous remettre dans le bon sens. Et ça n'est pas très confortable, mais c'est vital. Il faut accepter de se laisser déranger. Il faut accepter de vivre avec les autres. Et Dieu lui-même est quelque chose qui parfois nous dérange, parce que ce n'est pas simple. L'Évangile nous dérange, et même la vie dans l'Église a quelque chose de dérangeant. Il faut accepter d'écouter la prédication du pasteur qui vous agace. Ça vous énerve, vous n'êtes pas d'accord, pas tout à fait, enfin, eh bien ça vous fait du bien, voilà. Ça vous force à réagir, à réfléchir, à vous resituer, et à ne pas vous endormir dans une douce torpeur remis en cause par rien. Et vivre en communauté, c'est aussi ça. Vivre avec d'autres, c'est accepter d'être dérangé par les autres et de se déranger pour les autres. Et c'est comme ça que l'on peut effectivement avancer. Le bâton, le berger va encore l'utiliser de la même manière aussi, pas forcément pour diriger à gauche et à droite, mais aussi pour faire avancer la brebis qui s'arrête. Des fois, il y en a une qui s'arrête, qui ne veut plus avancer. Alors, c'est la cravache du cavalier. Allez, avance ! Et peut-être que Dieu est aussi comme ça, ou l'Écriture. Parce que ce qui nous menace, bien souvent, bon, ce n'est pas tellement l'erreur. Je pense que tous ceux qui sont là, vous êtes tous des gens honnêtes, travailleurs, généreux, bon, il n'y a pas de problème. Mais parfois, ça nous menace plus, c'est la paresse spirituelle. Effectivement, on se dit, oh, pff, allez, j'en sais assez, j'ai déjà lu 20 fois l'Évangile, au culte j'y vais de temps en temps, prier, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années, et donc je me contente de là où j'en suis. Eh bien, il est bon qu'il y ait quelque chose qui nous dise non. Avance, mets-toi en route, parce que sinon, ben, tu vas mourir sur place. Tu vas mourir de froid, de faim, de je ne sais quoi. Il faut être en marche, il faut être en route, il faut avancer. Et ça, c'est le danger de la paresse spirituelle. C'est ce que les théologiens du Moyen-Âge appelaient l'assédie. C'est pour ça que la paresse est considérée comme l'un des péchés capitaux. Ce n'est pas le fait de faire la sieste pendant les vacances, mais c'est de ne plus avoir même d'envie d'avancer. Or, la vie spirituelle a cela de particulier, et là je mets en garde mes bons catéchumènes, c'est que la vie spirituelle, moins on la nourrit, moins on a envie de la nourrir. Moins on nourrit notre vie spirituelle, moins on a faim spirituellement. Et donc c'est extrêmement dangereux. Et il est bon que parfois, peut-être, justement, Dieu nous dise « Allez, avance !» Bon, est-ce qu'il y a d'autres bâtons dans la Bible ? Réfléchissez. Ah oui, on aurait peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Il y a un bâton, et c'est bien le même mot qui est utilisé dans la Bible, pour désigner le bâton de commandement, le bâton de maréchal, si vous voulez, le sceptre du roi. Ça aussi c'est un bâton, et c'est bien le même mot, vous disais-je. Et donc si Dieu a aussi quelque chose à voir avec un bâton dans la main, ben, j'aurais dû le dire d'abord, c'est un bâton royal. Et ce bâton qui me rassure, c'est le sceptre qui nous rappelle la royauté de Dieu, qui nous rappelle sa dignité, sa grandeur et sa puissance. Et ça aussi, c'est important. Parce que, vous savez, les chrétiens, ils disent « Dieu vous aime, il est tendre, il est compréhensif, il pardonne » et on le tutoie. Mais faisons attention, Dieu, c'est quand même pas un super pote. Et ce Dieu qui est gentil, qui accepte tout, une sorte de brave patte, de papa gâteau, et on lui tape dans le dos, risque d'avoir quelque chose de faux. Et donc, d'accord, Dieu est tendre, Dieu nous aime et Dieu nous pardonne, mais il n'empêche que Dieu est roi, que Dieu est grand, que Dieu est au-delà de tout, que Dieu est digne de respect, de considération, sinon il ne sert plus à rien. Et donc oui, Dieu est bien le roi, il est le maître, il est celui que je veux servir. Dieu et l'Évangile, le Christ, tout ça, c'est bien mon Seigneur, c'est celui à qui je veux obéir. Et la confession de foi ancienne en disant « Jésus-Christ est le Seigneur », ça veut dire « Jésus-Christ est celui que je veux servir et il est également en échange celui qui est là pour me protéger ». Et donc Dieu est aussi celui qui est responsable de moi, qui me protège et qui me doit aussi de me garder en vie en quelque sorte. Et il est là pour prendre soin de nous, pour gérer notre sécurité, et moi je suis là pour lui obéir. Les choses sont claires. Ce sceptre, d'ailleurs, peut encore être autre chose dans la Bible, parce qu'il y a également le bâton. Ah, il y a un bâton moins agréable, qui est moins fréquent, mais l'histoire de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, bien sûr, et vous savez qu'avant de devenir le libérateur, Moïse va tuer un Égyptien. Et il va tuer un Égyptien en lui tapant dessus avec un bâton, encore ce même bâton de l'Éternel. Et le bâton peut aussi désigner dans la Bible un javelot, quelque chose que l'on envoie pour tuer quelqu'un. Oula, ça devient de plus en plus dur, mes images. Je suis parti de mon bon berger et là j'arrive dans des armes offensives. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Eh bien oui, je crois. Parce que, évidemment, Dieu ne veut pas que nous tuions nos ennemis matériels. Nous sommes là pour aimer nos ennemis et pour pardonner. Mais il y a dans notre vie plein d'adversités spirituelles et intérieures. Plein de choses qui menacent notre équilibre, notre bonheur, notre paix, notre joie. Et la foi peut être une façon d'aller tuer ces idées noires, d'aller exterminer la jalousie qui est en nous, cet égoïsme qui nous pourrit la vie, ce désir de vengeance qui nous rend malheureux et dépendants de la haine. Eh bien oui, il y a bien dans notre relation à Dieu cette puissance, je dirais, de destruction qui détruit le mal, qui détruit la tentation, détruit la haine, détruit l'intolérance. Et tout cela, eh bien, ça vient exterminer ces choses-là comme une bombe atomique qui rase tout le mal autour de nous. Et il y a une vraie puissance, je crois, dans la relation à Dieu, qui nous garde justement de nos ennemis et qui nous permet de détruire tout ce qui nous menace intérieurement. Bon, allez, je pourrais y avoir encore plein de bâtons, mais je vais m'arrêter. Encore un, allez, un petit dernier. Après, je vous laisserai trouver les autres. Un petit dernier, c'est le bâton que Dieu a donné à Moïse. Moïse, vous savez, sa vie n'était pas commode. Il fallait qu'il libère le peuple d'Égypte, qu'il traverse le désert. C'était plein d'embûches, plein de pièges, plein de difficultés. Et Dieu va lui donner quelque chose pour l'accompagner. C'est un bâton. Et ce bâton, il sera assez formidable, ce bâton. Il va vraiment, une sorte de baguette magique, je dirais. Parce que c'est avec ce bâton que Moïse va frapper la mer, et la mer va s'ouvrir et il va la traverser. Eh bien ça, c'est ça aussi un peu la présence de Dieu. Bon, bien sûr, la présence de Dieu ne fait pas écarter la mer matériellement dans nos vies, hein. Mais néanmoins, souvent, nous sommes en face d'événements dont on se dit, mais là, c'est... J'y arriverai pas, je vais me noyer là-dedans, je ne pourrai pas traverser ça, c'est trop dur pour moi. Et avec l'aide de Dieu, on frappe et la mer s'écarte. On y arrive à traverser ce qui nous semblait intraversable. Ça, c'est un grand don de cette présence de Dieu qui nous accompagne et qui multiplie notre force. Ensuite, Moïse sera dans le désert et là, il va mourir de soif. Et alors, avec son bâton, il va frapper le rocher et du rocher, de l'eau va couler. Ça aussi, c'est quelque chose que nous donne la présence de Dieu. Quand nous sommes dans l'aridité de notre vie, que notre vie est sèche, desséchée, que plus rien ne pousse, et que nous avons l'impression de mourir de soif, eh bien avec cette présence de Dieu, même en plein désert, même sur un rocher brûlant, eh bien en frappant ce rocher brûlant, de l'eau claire jaillit et qui nous redonne la vie. Et ainsi, accompagnés de cette présence de Dieu, eh bien, nous pouvons traverser des océans, traverser des déserts et marcher vers la terre promise, qui est ce lieu où coule le lait et le miel, c'est-à-dire ce lieu du bonheur extraordinaire. Donc vous voyez ce bâton de l'Éternel, oui, il me guide, il me rassure, et ce bâton est un appui, je dirais statique, quelque chose de matériel sur lequel je m'appuie, et c'est aussi une dynamique, c'est à la fois une puissance d'amour de toute chose, une puissance de gestion de notre existence. Et c'est tout cela que je souhaite à ces catéchumènes de trouver dans leur vie, tout cela que vous pourrez trouver dans cette parole de Dieu. Vous avez vu que tout cela, pour le trouver, il a fallu que je cherche un peu, hein, à partir de trois mots dans un texte, et trouver des idées. Eh bien, ce bâton de l'Éternel, il faut le chercher. Et ce bâton, il nous est tendu, comme Dieu l'a tendu à Moïse, et c'est à nous de le prendre. Et si nous arrivons à le prendre, et à le reconnaître, eh bien toute votre vie, vous serez accompagné de ce bâton de votre bon berger, de ce bâton de votre Dieu, de votre Père, qui vous soutient, qui vous donnera l'eau quand vous avez soif, qui vous donnera la terre ferme quand vous coulerez, qui vous donnera la confiance quand vous douterez, l'espérance quand vous serez désespéré, qui vous donnera la vie même aux abords de la mort, qui vous donnera toute chose. Et c'est ce bâton, effectivement, qui vous, toujours vous consolera, vous rassurera et vous permettra d'avancer sur votre, dans votre existence comme sur un chemin qui mène vers une terre où coule le lait et le miel. Amen.